démarrer par l'examen
pour savoir si effectivement, depuis le moment que vous êtes prévenu que nous allons étudier les juges, que vous avez lu le livre en entier, mémorisé et ainsi de suite, de telle sorte que tout ce que je vais faire pendant ces quelques heures, c'est de vous rappeler le livre des juges. Et voici donc la première question de l'examen. C'est où ?
Israël.
Vous voyez bien donc au nord, le lac de Galilée, au sud, la mer Morte, entre les deux, le Jourdain, à l'est du Jourdain, les rivières qui divisent parfois le territoire, l'Arnon, le Yabok, et ainsi de suite. Jusque-là, ça va. Deuxième question. Pouvez-vous donc remplir ce tableau avec les tribus? Et nous allons commencer avec les chiffres. Je vous donne un indice. Sur les 12 tribus, le troisième enfant de Léa n'y figure pas du nom de Lévi. Il n'avait pas de territoire. Sur les 12 tribus, c'est les deux enfants de Joseph qui s'y trouvent, Manassé et Éphraïm. Dernier indice, les chiffres sont dans l'ordre de naissance des enfants.
Ruben.
Alors, facile, n'est-ce pas?
Ruben, Siméon.
Alors, numéro 1. Ici, Ruben, tout à fait juste. Numéro 2.
Siméon.
Siméon. Numéro 3.
Judas.
Judas, bien sûr. Numéro 4. Dan, bien sûr. Dan. Numéro 5. Aïe, 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 aïe. Neftali. Numéro 6. Il y a deux tribus et demie à l'ouest, à l'est du Jourdain. Il y a Ruben. Oui. Et Gad. Numéro 6, c'est Gad. Numéro 7, c'est ceux qui aiment se reposer au bord de la mer, au brisant. Azer. Numéro 8, Neftali. Issachar. Numéro 9, donc Zabulon. Et 10 bis. Manassé. 11, on arrive à la fin.
Éphraïm,
suivi par 12, Benjamin. Moi, je vous recommande de vous inscrire tous à l'IBG pour une année. Parce que vraiment, c'est lamentable. Hein? Voilà donc les 12 tribus. Puisque vous avez mémorisé le livre. Dans ce livre, il y a combien de juges au total dont le récit s'y trouve?
Une dizaine.
Une dizaine. Une douzaine d'eux, pourquoi pas? En fait, il y a 12 juges dont 6, nous avons le récit plus complet, 6 autres, les récits assez anecdotiques. Ils avaient des fils qui, finalement, montaient sur 70 ans, très intéressant comme détail. Mais 6, on n'a pas de détails, et 6 dont on a le détail. Encore une fois, puisque vous les avez mémorisés, donnez-moi l'ordre des 6 juges principaux du livre des juges, dans l'ordre.
Othniel,
en tout premier lieu, c'est juste. Ensuite, quelqu'un qui était de la tribu de Benjamin, mais qui ne se servait pas de sa main droite.
Non.
Ehud, tout à fait juste. Ensuite, Et il y avait un lâche, mais heureusement qu'il y avait une femme.
Déborah.
Suivi de celui que vous avez écouté à maintes reprises dans l'école de dimanche, Gédéon. Suivi de celui qui n'avait pas beaucoup de respect pour son père et qui n'était pas un juge, mais un roi autoproclamé. Abimelech, fils de la concubine de Gédéon. Suivi de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'égards pour sa fille, Jephté, puisqu'il l'a sacrifié dans le feu, et suivi de celui qui est admiré par pratiquement tous les garçons de l'âge de 5 ans à 11 ans.
Samson.
Voilà. Voilà les juges. Othniel, Élou, Déborah, Barak, Gédéon, Jephté et Samson. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les juges mineurs. Alors, il me semble important, juste avant d'aller plus loin, de situer le livre des juges dans l'histoire biblique, dans la chronologie du peuple d'Israël. Et vous avez un verset clé, 1 Roi, au chapitre 6, verset 1, où il est question de la 480e année après l'Exode, aux 4e année du roi Salomon. Deux chiffres dans ce verset. La 480e année après l'Exode, 4e année du roi Salomon. Et d'après les archives assyriennes, nous savons que la 480e année après l'Exode, ou plutôt la 4e année du règne de Salomon, c'était dans l'année 966 avant Jésus-Christ. Par conséquent, 480 ans après l'Exode nous permet de situer le moment de l'Exode. Et ce sont finalement ces deux chiffres qui nous permettent d'établir un peu la chronologie de l'histoire d'Israël. Il y en a qui disputent, je le dis tout de suite, ce chiffre 480 en disant que c'est un chiffre arrondi. Il y en a d'autres qui calculent différemment. Je ne vais pas entrer dans le raisonnement. Et personnellement, j'accepte que les deux chiffres de 1 Roi 6-1 sont les chiffres réels. Si la quatrième année du règne du roi Salomon est juste, il n'y a pas de raison de ne pas accepter que ce soit la 480e année après l'Exode. Donc, l'Exode a eu lieu en 1466 avant Jésus-Christ. C'est ce qui est communément accepté par tout ce qui est les théologiens évangéliques de notre temps. Alors, à partir de là, rapidement, je vous situe dans l'histoire. Bien sûr, on ne va pas disputer une ou deux ou même 5 années de près. Mais on débute avec l'appel d'Abraham, la période des patriarches ensuite, Joseph qui descend en Égypte en tant qu'esclave. Ensuite, après la mort de Joseph, il s'est levé un autre roi qui n'avait jamais entendu parler de Joseph. Et le peuple d'Israël connaît cette période de 400 ans d'esclavage en Égypte. Après ces 400 ans d'esclavage, il y a l'Exode. L'Exode, finalement, qui dure 40 ans à cause de la rébellion et de la désobéissance du peuple d'Israël de suite après la sortie d'Égypte. Très rapidement après la sortie, le peuple murmure, par crainte de manquer d'eau, par crainte de manquer de nourriture, par crainte des ennemis qui les suivent. Et par conséquent, Dieu condamne ce peuple, cette génération, à mourir dans le désert. À partir de 1400, c'est la conquête de Canaan. Et ensuite, nous avons la période qui nous concerne, la période des juges, suivie du dernier juge, Samuel, qui lui est utilisé par Dieu pour oindre les deux premiers rois, Saül et David. Et nous avons donc, après la période des juges, chaotique, catastrophique, nous avons la monarchie. Et là, monarchie sous Saül, David, Salomon, mais à partir de la mort de Salomon, il y a la scission en 931, et il y a donc le royaume du Nord qui se sépare du royaume du Sud, le royaume du Sud composé essentiellement de Juda et de Benjamin. Le royaume du Nord, à cause de sa désobéissance, est envoyé en exil par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ. Le royaume du Sud, Juda, ne prend pas l'avertissement au sérieux et Juda aussi est envoyé en exil en 586 avant Jésus-Christ. Le retour de l'exil, avec les histoires que vous connaissez avec Néhémie et Esdras. Et puis, il y a une période, grosso modo, de 400 ans, où nous n'avons pas grand détail sur ce qui se passe dans cette période intertestamentaire. Et puis, l'arrivée de celui vers qui pointait toute l'histoire d'Israël, Jésus-Christ. Et il arrive en début de l'ère moderne, meurt en croix, ressuscite le troisième jour et introduit la période de l'Église. Ça, c'est un survol de l'ensemble de la période. Et nous, nous allons concentrer sur cette période en jaune clair, les juges. Cet après-midi, ça va être un petit peu, j'allais dire, plus technique. Parce qu'on va faire un survol du livre pour demain davantage concentrer sur deux au maximum récits du livre des juges. Et pour vous les plus jeunes, au risque de vous décevoir, je vais probablement vous raconter une autre version de l'histoire de Gédéon. Pas forcément toujours celle que vous avez appris forcément dans l'école de dimanche, parfois un peu embellie, où finalement il est monté en épingle comme héros parce qu'il a demandé des signes à Dieu, Dieu lui a donné des signes, et ainsi de suite. Malheureusement, l'histoire ne se termine pas de la même manière. Donc cet après-midi survol, demain l'un ou l'autre récit. D'abord, le titre de ce livre des juges. Le titre. D'emblée, on a l'impression qu'il s'agit donc peut-être de magistrats, de ceux qui sont appelés à présider sur les tribunaux. Le terme peut nous induire en erreur. Mais littéralement, ce terme se traduit par libérateur, sauveur. Et donc, d'emblée, nous avons une lumière qui est projetée sur ce livre des juges. C'est un livre de salut. Parfois, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que ce livre où il y a les pires abominations commises peut-elle figurer dans la parole de Dieu? Il y a des récits qu'on n'oserait pas forcément raconter au moins de 18 ans. Il y a des récits qui sont vraiment bleus au point de vue éthique, moral. Des récits qui finalement nous répugne. Il y a l'homosexualité, l'adultère, le viol. Il y a tout ce que l'on peut imaginer dans ce livre des juges. Fondamentalement, pourtant, ce livre est un livre de salut et figure dans le projet de Dieu pour dévoiler le salut au travers des âges. Ce projet de salut a démarré avec Abraham, Genèse 12, lorsque Dieu lui a dit « Tu auras une descendance, tu auras un héritage, un pays, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Et ces trois promesses constituent ce qu'on peut appeler le proto-évangile, le début de l'évangile. Parce que descendance, héritage et toutes les nations se réalisent physiquement avec Israël à la fin du Pentateuque. Nous avons les descendants d'Abraham. C'est un peuple nombreux à la fin du Deutéronome. Josué, c'est l'héritage, le pays qui est donné à ce peuple. Et dans l'Ancien Testament, en filigrane, nous avons toutes les nations. Nous avons Caleb. Caleb n'était pas juif ou israélite. Nous avons Rahab. Nous avons Ruth. Nous avons Naaman. Nous avons tous ceux qui sont sortis avec Israël de l'Égypte. Mais c'est à partir de la Pentecôte que nous allons voir pleinement la réalisation de cette promesse faite à Abraham, toutes les nations. Alors, cette promesse à Abraham, descendance, héritage et toutes les nations, s'est réalisée avec Israël sous l'ancienne alliance, et sous la nouvelle alliance, s'est réalisée avec l'Église, le peuple de Dieu. Et vous avez à la fin de Galates 3 ce rappel, nous sommes tous fils d'Abraham, pas uniquement les Juifs, il est le père des croyants. Nous tous donc qui avons accepté Christ, nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham. Paul continue en disant, vous êtes tous héritiers de Dieu. L'héritage n'est pas un pays pour nous, l'héritage c'est le royaume de Dieu, le peuple de Dieu. Le ciel sur terre, ça c'est cette assemblée. Ça ne ressemble pas tous les dimanches au ciel sur la terre, je suis d'accord. Mais dans la perspective de l'histoire, l'Église, c'est le futur arrivé dans le présent. L'Église, c'est le ciel sur terre. Nous sommes tous héritiers. Et puis, toutes les nations de la terre, mais depuis la Pentecôte, Pierre qui va chez Corneille, Paul qui va chez les Galates, et ensuite en Asie mineure, ensuite Macédoine, Achaïe, et les païens qui se convertissent. Ça, c'est le début, finalement, du message de l'Évangile, le message du salut. Et tous les livres de la Bible ouvrent des rideaux, progressivement, sur ce message du salut. Et le livre des juges n'en fait pas exception. C'est un livre de salut. Et c'est ça que nous allons voir au fur et à mesure. Un mot sur la période d'histoire concernée. On ne va pas entrer dans les chiffres. Je vais simplement vous livrer. Cette période des juges dure environ 325 à 350 ans. Donc, une période longue où le peuple vit cycliquement dans le chaos et le désordre. Ensuite, qui est l'auteur de ce livre des juges ? Alors, la réponse simple à cette question, je n'en sais rien. Il est vrai que ce livre des juges est composé de ce que l'on appelle des récits héroïques. Othniel, Éloud, Déborah, Gédéon, Jephté, Samson. Les récits héroïques qui ont été finalement transmis de bouche à oreille. Tradition orale. Une génération racontée à l'autre. l'histoire d'Othniel, l'histoire de Jephthé, et ainsi de suite. Il est probable, puisque Samuel était le dernier juge, et l'Écriture nous rappelle non seulement qu'il était le dernier juge, il est celui qui a oint les deux premiers rois, et de surcroît, il est celui qui connaissait tous ces récits héroïques. Donc vraisemblablement, c'est Samuel qui était le premier à mettre ces récits ensemble. Mais quand on étudie bien la structure du livre des juges, on constate qu'au fur et à mesure, d'autres ont rajouté. Alors, il ne faut pas que notre conviction concernant l'inspiration de l'Écriture nous renferme dans l'idée que chaque livre de la Bible doit avoir un seul auteur. Dieu, qui en est celui qui l'a inspiré par son esprit, il est l'auteur par excellence. Mais il peut s'en servir de plusieurs intervenants dans la rédaction d'un livre. Et dans le cas du livre des juges, il est clair que Samuel n'était pas le seul intervenant, probablement le principal. Mais il y en a eu d'autres qui ont fait des rajouts. De telle sorte que nous avons un livre dont la structure, la manière de l'avoir assemblé est extraordinaire. Et j'espère que je ne vais pas vous fatiguer en deuxième partie d'après-midi avec cela. Mais si nous pouvons saisir comment le livre des juges a été tissé, tricoté, formé, c'est absolument sensationnel, c'est remarquable. Et qui finalement nous parle de l'auteur divin, Dieu lui-même. Il est clair que ce livre a été rédigé pendant la période de la monarchie. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du livre des juges, par quatre fois, vous avez cette expression « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël ». Autrement dit, celui qui a compilé finalement ce livre l'a rédigé d'un temps où il y avait plus d'ordre, plus d'harmonie. En ce temps-là, il n'y avait point de roi, ce qui veut dire, ce qui sous-entend que pendant la période des juges, c'était le chaos, c'était le désordre, c'était catastrophique. Donc, auteur, il y en a plusieurs. Dieu, dans sa grâce et souveraineté, a utilisé plusieurs pour nous livrer un livre absolument extraordinaire. Ensuite, le contexte de ce livre des juges. J'aimerais vous lire, pas dans les juges, mais en tout début du livre de Deutéronome. Ces trois premiers chapitres de Deutéronome, Moïse, en quelque sorte, fait un résumé de toute l'histoire d'Israël jusqu'alors. C'est un résumé. Avec la loi, la désobéissance, tout ce qui finalement caractérise le peuple d'Israël. Et juste avant de traverser le Jourdain pour la conquête du pays, le peuple renouvelle l'alliance et vous, fidélité à Dieu, avec les bénédictions et les malédictions. Et pour une deuxième fois, le peuple est réuni à Kadesh Barnéa. Une première fois, un an après la sortie, où Moïse a envoyé les 12 espions. Désobéissance, 38 ans dans le désert. Jusqu'à ce que toute cette génération meure. Et maintenant, 40 ans plus tard, le peuple se trouve pour une deuxième fois à Kadesh Barnéa, et là, Moïse leur livre la loi. Il leur rappelle finalement la loi de Dieu. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzroth et Dihazaba. Et puis, après qu'il leur rappelle la loi, chapitre 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute pour les mettre en pratique, les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et puis, ce verset 23 sur l'écran, « Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous, et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé. » Donc, contexte. Juste avant la prise du pays de Canaan, la conquête, Moïse ne peut pas lui-même traverser. Dieu lui a interdit. Il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Et donc Dieu le condamne à mourir de l'autre côté du Jourdain. Mais avant de traverser le Jourdain, Moïse rappelle au peuple l'histoire jusqu'alors en le disant, mais je vous ai livré tous les commandements de l'Éternel. Maintenant, Israël, je vous en supplie, n'oubliez pas cette alliance que Dieu a établie avec vous. Le peuple traverse le Jourdain avec Josué. S'en suivent 7 ans de combat pour que le pays soit occupé. S'en suivent après la période des juges. Et donc, nous lisons au chapitre 2 des juges, à partir du verset 6. Josué renvoya le peuple et les Israélites allèrent prendre possession du pays, chacun dans son territoire. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et même tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accompli pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage à Timnathérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres décédés, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Une génération auparavant, Moïse leur rappelle l'Alliance. Moïse leur dit, n'oubliez pas. Et à peine une génération après, il s'est élevé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils se rallièrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. Parenthèse. Baal, c'était finalement un nom générique pratiquement pour tout ce qui était divinité masculine étrangère et qui englobait pratiquement tout ce que l'on peut connaître dans le panthéon mésopotamien, par la suite grec et ainsi de suite. Les Baals, c'était toutes ces divinités étrangères. Les Astartés ou les Asherah c'était les déesses, et particulièrement divinité de la fertilité et divinité de la guerre. Et donc, Israël s'est détourné. Non, dit le texte, ce n'est pas détourné. Israël a abandonné l'Éternel pour servir les Baals et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit. Comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, des libérateurs, des sauveurs, qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent, verbe très fort, hein? Ils se prostituèrent à nouveau à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivi leur père, qui obéissait au commandement de l'Éternel. Ils agirent toutes autrement. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge. Car l'Éternel avait pitié de leur gémissement devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux, et ils n'abandonnaient rien de leurs agissements ni de l'endurcissement de leur conduite. Et je voudrais vous lire ce commentaire d'un commentateur du livre des juges, l'un des plus connus aux États-Unis. Un homme théologien assez remarquable qui a porté ce commentaire surtout sur les églises, probablement aux États-Unis, mais peut-être faut-il tout simplement être prévenant et lire par rapport à ce que nous vivons. Aucun livre de l'Ancien Testament n'offre à l'Église moderne un miroir aussi révélateur que ce livre des jalousies des Éphraïmites, le pragmatisme religieux des Danites, le paganisme de Gédéon, l'égoïsme de Samson, la lâcheté de Barak et les violences faites aux femmes par les hommes de Gibéa, donc les Benjaminites, toutes les marques de la dégénérescence cananéenne sont visibles aujourd'hui dans l'Église et ses dirigeants. En fait, Israël devait exterminer les Cananéens. Et Israël, au lieu de les exterminer, les a imités. Et les Israélites sont devenus plus cananéens que les Cananéens. Et Bloch dit, c'est ce qui se passe aussi dans l'Église. Toutes ces dégénérescences cananéennes sont visibles aujourd'hui dans l'Église et ses dirigeants. Ça vous semble un peu sévère? Si oui, c'est que vous connaissez peu l'Église aux États-Unis en particulier, avec les disputes, les litiges devant tribunaux. Ce livre est un coup de semonce pour une Église moribonde, emprisonnée dans ses propres activités égoïstes. Au lieu d'écouter l'appel des leaders vraiment pieux et de laisser Jésus-Christ être le Seigneur dans l'Église, partout, les congrégations et leurs leaders font ce qui est juste à leurs propres yeux. Pas tendre. Mais si vous réfléchissez à l'histoire de l'Église depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis 70 ans grosso modo, ce problème de dégénérescence cananienne est bel et bien présente. Je vais vous donner une illustration. Celui qui était le rédacteur en chef de Christianity Today, grand magazine évangélique aux États-Unis, fondé à l'époque par Billy Graham et quelques compagnons. Ce rédacteur en chef, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il était davantage intéressé par sa popularité et la popularité de son journal que par la fidélité à l'écriture. Et il s'en est repenti. Il a eu le courage. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était davantage intéressé d'avoir finalement un article dans le Wall Street Journal, New York Times ou sur Time Magazine que finalement être fidèle à l'écriture. L'amour de Dieu ou l'amour des hommes. Quel jugement voulons-nous ? Et très souvent nous sommes tiraillés entre finalement être applaudi par les hommes ou être applaudi et approuvé par Dieu. Et ce Marc Galli, de son nom, a dit « Voilà ce que j'ai observé dans l'Église aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. » Vous prenez n'importe quel problème éthique ou social qui touche à l'Église. Et je vais prendre avec vous « Mariage pour tous ». Comment est-ce que l'Église démarre devant, finalement, ce phénomène du mariage pour tous? Le plus souvent, l'Église dit « la Bible dit ». Et là, on ne peut qu'approuver. Mais petit à petit, cela se complique. Surtout lorsque l'on se rend compte que dans nos Églises, nous avons de temps en temps, et de plus en plus, des personnes qui se disent plutôt attirées par des personnes de même sexe, sans avoir des rapports homosexuels quelconques. Et puis, il y a des personnes qui se sont paxées en tant qu'homosexuels et qui par la suite se convertissent. Comment est-ce que l'Église doit réagir? Et puis, il y a dans les Églises, effectivement, des personnes qui vivent en couple entre personnes du même sexe. Comment est-ce que l'Église doit réagir? Donc, deuxième étape après la Bible dit, c'est complexe. C'est complexe. C'est vrai. C'est complexe. Mais les problèmes s'aggravent. Parce qu'à partir du moment où on se rend compte que ça touche les familles légendaires enracinées dans l'Église, il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de solution facile. Troisième étape. Et à partir du moment où, comme dans l'Église anglicane l'an dernier, lors du synode qui s'est tenu à Londres, ils ont voté pour une cérémonie de partenariat dans l'Église anglicane, et l'actuel archevêque de l'Église anglicane, qui a fait toute sa formation dans le milieu évangélique, vient de rédiger une liturgie pour un partenariat entre homosexuels. Et donc, on arrive à une quatrième étape. Il doit y avoir plusieurs alternatives. Et on arrive à la dernière étape, on accepte. Ça, c'est la dégénérescence cananéenne. Et ça touche tous les problèmes dans l'Église. Et ce livre des juges, donc, comme le dit Bloch, est un miroir qui doit nous faire réfléchir. C'est dans ce sens-là que je vous propose ces quelques réflexions. Alors, juste un rappel de ce que j'ai déjà vu avec vous par rapport au livre de Josué. Mais j'ai assez confiance que vous avez tout oublié. Par conséquent, ça ne me pose aucun problème de tout vous rappeler. De toute manière, la plupart d'entre nous, on ne se souvient même pas du passage du message de dimanche dernier. Il n'y a personne qui rougit, mais pourtant vous devriez. Alors, stratégie de conquête dans la crise du pays. Dans toute conquête militaire, profane, il y a toujours deux étapes, finalement, dans la conquête d'un pays. Il y a l'étape occupation et l'étape consolidation. Occupation, consolidation. Et on peut prendre comme exemple Deuxième Guerre mondiale. Ici en France, la France a été en grande partie occupée par l'armée allemande. Elle dominait cruellement. Mais il y avait une résistance en France. Et la consolidation n'a jamais réussi. L'occupation a bien réussi, pas la consolidation. Vous prenez l'Afghanistan, lorsque les Russes ont envahi l'Afghanistan. Ils ont mis en place leur gouvernement avec un président marionnette. Et ils ont occupé le territoire pendant un temps. Mais malgré tout ce qu'ils ont investi dans ce pays, à un moment donné, ils ont dû se retirer. Parce qu'au point de vue consolidation, c'est l'échec. Et vous découvrez dans l'histoire profane, dans l'histoire des combats, que le plus souvent, au niveau de l'occupation, ça se passe relativement bien, facilement, mais la consolidation très difficilement. Très, très difficilement. Et c'est la même chose dans l'histoire biblique. Finalement, sous Josué, l'occupation s'est fort bien déroulée. Josué, après Jéricho, il y avait une erreur par rapport à la ville d'Aï, et puis il y avait 4 campagnes militaires successives, dans le centre, dans le nord, dans le sud, et ainsi de suite. Il y avait des interventions miraculeuses de la part de Dieu. Le soleil qui s'est arrêté, les grêlons qui sont tombés, et ainsi de suite. Mais cette étape d'occupation a duré 7 ans. Depuis le moment où Josué a conduit l'armée contre Jéricho, jusqu'au moment où Josué a renvoyé les 2 tribus et demie de l'autre côté du Jourdain, parce qu'ils devaient, eux, être le fer de lance dans le combat pour occuper le pays, donc les Rubénites, les Gadites et Manassé, jusqu'au moment où il les a renvoyés de l'autre côté du Jourdain, il s'est écoulé 7 ans. 7 ans. Et cette étape de l'occupation s'est fort bien déroulée, de telle sorte que vous avez finalement ces rappels à la fin du livre de Josué, que toutes les promesses de l'Éternel se sont bien accomplies à votre égard. L'étape de l'occupation, remarquable, c'est Josué 23, vous lisez le chapitre. Mais maintenant, Josué est plus âgé. Et il y a encore du travail à faire. Et c'est ce que nous lisons. Josué était vieux, d'un âge avancé, et l'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui reste à occuper, consolider, est très grand. Josué, je me suis servi de toi pour cette première étape de la conquête, et tu as occupé, possédé l'ensemble du territoire, tu as remporté des victoires remarquables. 31 rois ont capitulé devant toi. Magnifique. Maintenant, Josué, tu es âgé. Il faut maintenant que les tribus rentrent dans leur territoire respectif pour encore consolider ses gains. Et nous pouvons lire encore, là, au Josué 23, « Beaucoup de temps s'était écoulé depuis que l'Éternel avait accordé du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Josué était vieux, d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers, et il leur dit, « Je suis vieux, d'un âge avancé, et vous, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui restent à conquérir à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera loin de vous et les dépossédera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. C'est évidemment métaphorique, c'est figuratif. Ce n'était pas les animaux des champs dont ils avaient peur, mais c'était les habitants, les occupants du territoire. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages, encore métaphoriques, ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. Et donc, nous avons ce verset qui résume. Josué fit longtemps la guerre contre tous ses rois. Je vais terminer là avant la pause. C'est pour ça que vous êtes venus, donc on va respecter. La conquête a eu lieu en deux étapes, comme toute conquête militaire. Il y a l'étape occupation, l'étape consolidation. Et ce qu'il faut toujours intégrer dans l'œuvre de Dieu, c'est le facteur temps. Et c'est Dieu qui a créé le temps, entre parenthèses, hein. C'est lui qui a créé l'horloge avec le temps que nous respectons. Et ce qui parfois nous trompe, c'est finalement ces vignettes miraculeuses dans l'Écriture. Je m'explique. Jéricho, les murs tombent, fantastique. Le soleil qui se couche, les grelons qui tombent. On lit ces récits, et on pense parfois que tout est une série d'interventions divines. Alors Dieu peut-il encore intervenir de manière divine et de cette manière aujourd'hui? Oui, aucun doute. Est-ce normatif? Non. Parce que Dieu se sert du temps dans son œuvre. Et l'étape de la consolidation dans une conquête est toujours plus difficile que l'étape de l'occupation. Et maintenant, je termine avec une tentative d'application. L'œuvre de Dieu dans notre vie est également composée de deux étapes. Occupation, consolidation. Conversion, transformation. Justification, sanctification. L'étape de l'occupation, conversion, où Dieu prend possession de notre vie, est une étape, je ne dis pas facile, mais une étape qui se passe très souvent sur une période plus courte et beaucoup plus décisive. Et nous savons que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur lui appartiennent pour toujours et ne perdront jamais le statut de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Par contre, le plus difficile dans la vie chrétienne,
C'est la transformation. C'est la consolidation. C'est la suite. Parce que depuis le moment de notre conversion, nous sommes engagés dans une bataille et un combat âpre contre l'âge présent, le monde dans lequel nous vivons, et l'âge futur dans lequel nous sommes déjà, le royaume de Dieu. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà bel et bien pieds sur terre dans l'âge présent. Mais nous avons déjà été transférés dans le royaume de Dieu et nous faisons partie de ce royaume. Et toute notre vie est un combat entre ces deux âges. Est-ce que nous allons céder à l'âge présent et la chair? Ou est-ce que nous allons céder à l'âge futur, royaume de Dieu, l'âge de l'esprit? Tout notre combat, c'est âge présent, âge futur. Royaume de ce monde, royaume de Dieu. Chair, esprit. Et c'est un choix. C'est un choix. Et après près de 60 ans, en tant que engagé dans l'œuvre de Dieu, je dois avouer que si j'ai des situations crève-cœur, c'est en constatant le nombre de chrétiens qui ont bien démarré, mais qui n'ont pas persévéré et continué, qui finalement ont abandonné, ce qui parfois illustre aussi la parabole du semeur. La semence tombe sur toutes sortes de terres, et c'est le temps qui nous permet de voir est-ce que finalement la terre était bonne et le fruit, un fruit qui demeure. C'est le temps. Autre illustration. Combien de fois est-ce que Josué et les Israélites ont contourné la ville de Jéricho? Combien? 13. Une fois par jour pendant 6 jours et 7 fois le dernier jour. Parce que vous ne saviez pas. Dieu est superstitieux. 13 fois. Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire tomber les murailles sans qu'ils marchent autour? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu faire tomber les murailles après un seul jour? Vous imaginez ces Israélites qui marchaient autour de Jéricho? Ils ne pouvaient pas émettre un son. Et pourtant, il y avait des femmes dans le groupe. Enfin, non, ils ne pouvaient pas émettre un son. Vous imaginez? Encore combien de fois, Josué? Encore demain. Et encore demain. Et demain, c'est 7 fois. Pourquoi? Pourquoi? Pour deux raisons. Pour apprendre au peuple de Dieu la persévérance. Parce que c'est dans la persévérance que nous détecterons si oui ou non quelqu'un est vraiment enfant de Dieu. C'est par le fruit dans la persévérance qu'on peut voir l'œuvre de Dieu. Lever une main, répondre à un appel, remplir une carte, n'a jamais converti qui que ce soit. Ça peut mener même les personnes dans une fausse assurance de conversion. Ce qui nous permet de voir si quelqu'un est un enfant de Dieu, c'est le temps. Consolidation, persévérance. Première raison, persévérance. Deuxième raison, mettez-vous à la place maintenant de ceux qui étaient sur les murailles à Jéricho. Tous ces habitants de la ville qui voient Israël contourner la ville. Rahab avait fait le bon choix. Rahab avait fait le bon choix. Pourquoi? Facteur temps. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et il a encore donné du temps aux habitants de Jéricho de se repentir. Et le temps dans l'œuvre de Dieu, c'est pour la persévérance du peuple de Dieu et pour apporter aux autres la possibilité de se repentir. et d'accepter le salut. Stratégie de Dieu, occupation, consolidation. Dans la vie du croyant, conversion, transformation, justification, sanctification. Et le facteur temps dans l'œuvre de Dieu, dans notre vie, est de loin le plus important. Si j'avais tout appris 24 heures après ma conversion, si je savais à l'époque, 24 heures après ma conversion, ce que je sais maintenant, ça ne m'aurait pas servi. Ça ne m'aurait pas servi. Parce que Dieu travaille petit à petit dans notre vie. Et nous sommes dans l'étape de la consolidation. Et c'est l'introduction à ce livre des juges. On fait la pause.